Bienvenue à tout le monde. Pour commencer, je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu lundi et mercredi dernier. Mais ce soir, nous allons redécouvrir la fermeté dans la foi. Nous partirons des quelques textes qui semblent problématiques à la première lecture, mais qui au final ne le sont pas quand on les considère et qu'on les interprète au regard de l'ensemble des Écritures. Et puis, nous partirons de ces quelques textes d'Hébreux pour faire une réflexion plus doctrinale sur la persévérance des saints. Sur quoi repose l'assurance de notre salut? Pouvons-nous le perdre? C'est l'objectif de la soirée. Avant de commencer, je voudrais vous faire un petit rappel en vous représentant le plan de l'Épître aux Hébreux. Il y a cette introduction, ces quatre premiers versets où l'auteur introduit d'une manière générale ce qu'il va développer tout au long de l'Épître. C'est que, autrefois, de diverses manières, Dieu a parlé par les prophètes. Et ces prophètes-là ont commencé, ont préparé la révélation de Jésus-Christ. Et puis, dans le plan de Dieu, eh bien, Christ est venu et Christ lui-même a parlé. Et c'est lui qui a donné le sens complet de ce que voulaient dire les prophètes. Par son incarnation, son enseignement, ses miracles, son autorité, et puis enfin sa mort, sa résurrection et son ascension, Dieu nous a tout dit par le Fils. Et les apôtres, eux, ont été dépositaires de ce message-là, ils étaient les témoins, et Christ les a nommés et leur a donné l'autorité pour être les dépositaires de son message. Et ainsi, par le message apostolique, nous avons toute la révélation de Dieu. Notre Bible est suffisante pour connaître Dieu. Et c'est notre grande sécurité. Et puis, nous avons vu donc, au travers de quatre blocs, l'auteur développe que Christ est d'abord, dans les deux premiers chapitres, supérieur aux anges. Ensuite, qu'il est supérieur aux conducteurs de l'Ancien Testament, Moïse et Josué, celui qui a libéré le peuple et l'autre qui devait le faire rentrer dans la terre promise. Et puis, l'auteur développe que Christ est l'auteur d'un sacrifice, l'auteur d'un ministère, d'un sacerdoce supérieur à ceux de Lévi, puisque lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, vous savez, ce prêtre roi de l'Éternel, celui qui est au-dessus de tout, qui avait béni Abraham et qui était donc antérieur et supérieur, puisque lui avait ses deux offices à la fois de roi et de prêtre. Et Christ est celui qui les a pleinement unis, incarnés et accomplis pour nous. Il a été l'auteur d'un sacrifice parfait, puisqu'il s'est offert lui-même. C'est avec son propre sang qu'il a passé le voile et qu'il est rentré dans la présence de Dieu où il a offert son sacrifice pour nous, donc une fois pour toutes. Et puis l'auteur explique que ces sacrifices et tout ce système religieux dans l'Ancien Testament était l'ombre de quelque chose à venir, était là pour préparer, nous révéler, nous conduire à Jésus-Christ. Ce n'était pas simplement un système qui était une fin en lui-même, mais il était là pour conduire à Jésus-Christ. Et donc Christ est l'auteur d'une alliance supérieure. Et donc, à la suite de tout ce développement-là, l'auteur va encourager la foi de ses auditeurs, en tout cas de ses lecteurs, par une galerie de modèles de foi sous cette ancienne alliance, ceux qui vraiment avaient les regards fixés vers le Dieu de leur salut, ceux qui ont été sauvés par ce Dieu-là, et puis donner après des encouragements concrets, pratiques sur la vie chrétienne dans le chapitre 13. Voilà. Maintenant, je voudrais juste, avant de introduire la question de ces textes, faire un petit rappel sous forme de synthèse de ce que j'ai dit dans la deuxième partie de soirée, puisque tout le monde n'était pas là, où l'auteur compare dans les chapitres 8 à 10 l'ancienne et la nouvelle alliance. Rapidement, ce que nous dit la parole à propos de l'ancienne alliance et la différence avec la nouvelle. c'est très important de saisir ça parce que, vous allez le voir, la nature de notre salut dépend de la nature de l'Alliance. Notre assurance dépend de ce que c'est la Nouvelle Alliance, de ce qu'elle est. Sur quelle base est-elle accomplie ? Sur quelle base pouvons-nous construire ? L'Ancienne Alliance n'est pas l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul en Galates chapitre 3. En revanche, la Nouvelle Alliance, celle scellée par Jésus-Christ à la croix, est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. L'Ancienne Alliance n'était pas une alliance de grâce, Hébreux 8:9, mais j'oublie que j'ai mon PowerPoint et vous ne voyez rien, n'est-ce pas ? C'est trop petit ? Vous ne voyez pas ? D'accord, eh bien écoutez, vous l'aurez, je voulais tout mettre sous une diapo, mais vous l'aurez en PDF. Donc, n'est pas une alliance de grâce, cette ancienne alliance. Par contre, la nouvelle alliance est une alliance de grâce. Elle concernait, cette ancienne alliance, seulement les Juifs ethniques, le peuple ethnique. D'accord ? La nouvelle alliance, elle, concerne la postérité d'Abraham, le Juif, premièrement, mais le Juif et le Grec, le Juif et le païen, toute la postérité d'Abraham. Nous sommes, nous croyants de Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Elle n'avait pas pour but le salut, cette ancienne alliance, mais elle était là pour accorder des bénédictions terrestres et préparer la venue de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle, concerne le salut éternel et les bénédictions célestes. L'ancienne alliance était prévue pour conduire à Christ. La nouvelle alliance est accomplie par Christ et remplace l'ancienne alliance. Hébreux chapitre 8, 6 à 13, hein, 9 aussi, et 1 Corinthiens 11. Je ne vais pas vous citer à chaque fois toutes les références, mais il y en a beaucoup, ça serait trop lourd. Tous ceux qui étaient sous l'ancienne alliance n'étaient pas sauvés. Certains sous l'ancienne alliance étaient perdus. Ce n'était pas une alliance qui promettait le salut, qui a pu assurer le salut de tous ceux qui étaient cependant sous cette alliance. Or, dans la nouvelle alliance, il n'y en a aucun qui n'est pas sauvé. Celui qui est dans cette alliance-là a l'assurance d'être sauvé. L'ancienne alliance était conditionnelle, devait être maintenue par l'obéissance du peuple. Si le peuple obéissait, il demeurait dans le cadre de cette alliance. Mais s'il désobéissait, alors il n'était plus au bénéfice de cette alliance. La nouvelle alliance, elle, est inconditionnelle. Pourquoi ? Non pas qu'elle ne nécessite pas d'obéissance. En tout cas, elle n'est pas fondée sur notre obéissance, mais sur l'obéissance de Christ pour nous. En ce sens, la nouvelle alliance est inconditionnelle. L'ancienne alliance ne conduisait pas à la perfection car l'homme y avait part. Il devait remplir sa part dans cette alliance-là. Donc cette alliance, par nature, vu que l'homme y avait part, ne pouvait pas conduire à la perfection. Or, la nouvelle alliance, elle, conduit à la perfection parce que Dieu seul en est l'auteur. C'est une alliance entre le Père et le Fils. Elle repose sur l'obéissance du Fils et elle est maintenue par son obéissance. L'ancienne alliance mettait en lumière les transgressions de tous, les transgressions de tous les hommes. Je le rappelais l'autre soir, mercredi soir, mais l'ancienne alliance était là pour révéler les transgressions du peuple d'Israël, mais aussi les transgressions de ceux qui vivaient dans la terre promise. Et le peuple arrivant dans cette terre promise devait la conquérir et vivre selon la loi de Dieu et donc ne pas être assimilé au paganisme qu'il y avait sur ces terres-là. Et par l'obéissance à la loi de Dieu, du coup, il n'était pas assimilé à ces peuples païens. Donc ça mettait en lumière les transgressions des Israélites qui n'obéissaient pas, mais aussi les transgressions des peuples païens. Dieu a tout renfermé sous la malédiction de la loi. Ensuite, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, ne pouvait les hommes donc mettaient en lumière les transgressions des hommes sans les libérer pour autant de ces transgressions-là. En revanche, la nouvelle alliance efface les transgressions et libère l'homme du péché. Il y avait possibilité de la transgresser, cette ancienne alliance. Ce n'est pas le cas de la nouvelle alliance. Elle ne peut pas être transgressée, puisque c'est Christ qui en est l'auteur. Quand je transgresse, moi, la loi de Dieu, Christ a payé pour moi. Nécessité d'un sacerdoce, donc lévitique, dans cette ancienne alliance, puisque Dieu savait que le peuple l'a transgressé, Dieu a donné des lois pour permettre à ce peuple de venir recevoir un pardon. Un pardon, en réalité, qui n'était pas accordé, mais qui était là pour préparer le peuple au pardon qui serait totalement, pleinement accordé par Christ dans la nouvelle alliance. Et donc, la nouvelle alliance, elle, est fondée sous la sacrificature de Christ, qui lui offre donc un ministère de médiation qui est parfait entre l'homme et Dieu, et qui est bien sûr supérieur et antérieur à l'ancienne alliance. Cette loi qui était donnée était gravée sur des pierres dans la nouvelle alliance, elle est gravée dans les cœurs de ceux qui en font partie. Il n'y avait dans cette alliance, dans cette ancienne alliance, pas une connaissance personnelle de Dieu. Dieu demeurait extérieur. Dans la nouvelle alliance, il y a une connaissance personnelle de Dieu. Et puis, le pardon des péchés dans l'ancienne alliance, eh bien, il n'était pas effectif. Dieu les a gardés en suspens, a gardé la condamnation des péchés commis sous l'ancienne alliance, selon Romains 3, en suspens, et les a déversés sur Christ. Christ est mort pour les péchés, tous les péchés, y compris des croyants qui étaient sous l'ancienne alliance et qui ne pouvaient pas être conduits au salut par leur obéissance. Hébreux, chapitre 8. Ceci nous amène donc à comprendre ce que je disais en introduction, c'est que la nature de notre salut dépend de la nature de l'alliance. Dieu a une relation avec l'homme qui est basée sous le régime, en fait, d'une alliance. La relation est toujours alliancielle entre l'homme et Dieu. La nouvelle alliance nous garantit l'assurance de notre salut. D'accord ? Donc, je l'affirme et je vais vous le démontrer. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de persévérance des saints, c'est-à-dire de l'impossibilité pour ceux qui sont sauvés de perdre leur salut. La garantie que ceux qui sont sauvés persévéreront dans la foi jusqu'à la fin dépend de la question du salut, donc de la nature du salut. Et il faut comprendre comment le salut s'applique à nos vies de façon personnelle. Comment est-ce que Dieu applique son plan de rédemption dans nos vies? On appelle ça en théologie l'ordo salutis. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je vais vous expliquer. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'élection inconditionnelle. Le fait que Dieu choisit ceux qu'il veut sauver selon son bon plaisir souverain, ses desseins bienveillants et sa grâce. Notre salut n'est pas basé sur notre mérite ou sur notre potentiel à devenir un jour un bon chrétien, mais selon les desseins bienveillants de Dieu. Donc Dieu élit des personnes pour le salut. Élit des personnes pour le salut. Je ne fais pas de faute de français, c'est bon. Alors, une fois que Dieu veut élire ces personnes-là, une fois qu'il les a élus, comment est-ce que ce salut va s'appliquer à leur vie? Premièrement, la parole nous dit qu'il y a nécessairement l'évangile qui intervient. Nul homme, femme sur terre n'est sauvé sans l'évangile. Nous devons recevoir l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Associé à cette réception, de cet appel de l'évangile efficace dans la vie du croyant, il y a la régénération. Le Saint-Esprit va de pair avec l'Évangile et ils travaillent tous les deux ensemble. Nous sommes nés de nouveau par la parole et nés de nouveau par l'Esprit. Dieu nous fait naître de nouveau. Du coup, nous pouvons répondre par la foi. La foi est le don de Dieu, le moyen de la grâce, le moyen de recevoir l'Évangile. Et l'homme répond par la foi. C'est la conversion qui nécessite aussi forcément de la part de celui qui est régénéré la repentance. La foi est quelque chose de fondamentalement bonne. La foi vient de Dieu, ne vient pas du cœur de l'homme. D'accord ? Quand nous répondons à l'Évangile, c'est parce que Dieu nous a régénérés. Ceci implique la justification. Nous sommes justifiés par la foi. Justifiés parce que Christ a pris sur lui nos transgressions et que Dieu nous impute sa justice. Nos péchés lui sont imputés et sa justice nous a imputés. Ce qui implique l'adoption. Nous devenons ses enfants parce que nous sommes justifiés. Nous devenons enfants de Dieu. Et commence pour nous la sanctification, le processus de transformation dans nos vies à la ressemblance de Christ. L'objectif, le plan de Dieu pour notre vie est de nous transformer à l'image de son Fils. Ceci dépend de l'œuvre du Saint-Esprit qu'il y a en nous, qui nous a régénérés. C'est ce même Esprit qui va nous sanctifier. La régénération est quelque chose d'instantané. La sanctification est un processus qui nous conduit et qui sera pleinement achevé après notre mort. Je précise juste que la sanctification est l'œuvre de Dieu en nous, qui crée le vouloir et le faire. Mais qu'en même temps, la parole nous adresse des commandements de faire tous nos efforts, de mortifier le péché, etc., etc. D'accord ? Il y a cette tension saine dans la Bible. Et donc, cette sanctification, nécessairement, nous assure que notre union à Christ sera pour toujours. Nous persévérerons toujours. C'est l'assurance que jamais nous n'abandonnerons la foi. Et puis, après cela, c'est la persévérance finale, c'est que nous pouvons, pendant un temps peut-être, nous éloigner, être en proie au doute, mais que jamais nous n'abandonnerons Christ, parce que nous sommes unis à lui, parce que nous avons été sanctifiés, parce que nous avons été justifiés, parce que nous avons été régénérés, parce que nous sommes élus. Éphésiens 1, chapitre 1, dresse un portrait magnifique où il part de l'élection et va jusqu'à la glorification, l'état final de l'éternité. Et il nous dit qu'il n'y a zéro perdu entre les deux. Tous ceux que Dieu a élus, il les a prédestinés à la foi, et tous ceux qui ont la foi sont justifiés, tous ceux qui sont justifiés seront glorifiés. Tous ceux, aucun n'est perdu dans la nouvelle alliance. Enfin, l'autre étape, soit le retour de Christ. Vu que je manque de foi pour peut-être ma génération et que je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour l'Évangile, peut-être la mort. La mort est une des étapes de notre salut. L'apôtre Paul l'a considéré comme telle, où il se réjouissait dans la perspective de sa mort parce qu'il comprenait que c'était le dernier ennemi à affronter avant d'être uni pleinement avec son Sauveur. Et donc, la perspective eschatologique, la glorification, l'application de la pleine rédemption pour nous, de toutes les promesses pour nous, avec un corps glorifié, un corps libéré de tout péché, en communion pour la vie éternelle avec Christ. D'accord ? Donc, pour comprendre la persévérance des saints, il faut avoir une vision globale de ce que Dieu fait dans nos vies. Sinon, on va se devenir fou. On perd l'ensemble de ce que Dieu veut faire pour nous. Tu avais une question ?
En fait, ce n'est pas très clair pour moi quand tu parles de la foi qui ne vient pas de l'homme. Enfin,
Oui, la foi est la réponse de l'homme. Et elle n'est possible que parce qu'il y a la régénération. Celui qui n'est pas régénéré ne répond pas à l'évangile. D'accord ? C'est pas l'objet de l'étude, donc je vais pas le développer. Je vous ai mis les références, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Souvent, les gens butent là-dessus et comprennent pas, parce qu'on dit, si tu as la foi, alors Dieu va te sauver, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Souvent, c'est quelque chose d'édit. Moi, je crois que ça ne tient pas bibliquement. Personne ne décide d'être adopté, personne ne peut passer par lui-même de la mort à la vie. Toutes les images et tous les textes didactiques du Nouveau Testament vont à l'inverse de cette réflexion-là. Tu avais une remarque peut-être ?
En fait, une explication à cette interrogation qu'on se pose, c'est qu'ici on énumère des étapes qui nous paraissent successives et que certaines sont télescopées, elles se passent en même temps.
Oui.
Par exemple, cette notion de régénération et de la réponse de l'homme à la foi, c'est quelque chose de
simultané. Oui.
Mais c'est une condition nécessaire
voilà.
à une réponse de la part de l'homme
voilà.
dont le jugement est brouillé par le péché.
Voilà. La réflexion ici, elle est à la fois. Faite par les théologiens, c'est pas moi qui vous la pond, hein. c'est la majorité des théologiens réformés, issus de la réforme et évangéliques, hein, sont d'accord là-dessus. C'est un ordre logique et un ordre historique à la fois. C'est-à-dire que l'élection, c'est quelque chose qui remonte avant les temps, quoi. C'est quelque chose d'éternel. D'accord ? La glorification, c'est quelque chose pour l'éternité à venir pour nous. Nous sommes dans le temps, d'accord ? Donc il y a bien un début et on n'est pas glorifié avant d'être élu, quoi. Enfin, vous comprenez ? Mais c'est clair que moi, par exemple, dans mon expérience, Reynald pourrait en être témoin, c'est lui qui m'a amené à Christ, j'ai l'impression d'avoir tout eu en même temps, j'ai l'impression d'avoir eu le package. Et effectivement, j'ai vécu cette expérience-là où je parlais de ma foi, et moi je croyais que c'est à ce moment-là, c'est en même temps que je commençais à expérimenter dans ma vie vraiment cet amour de Dieu. C'est en même temps que c'est venu. Et c'est quand moi je me repentais que j'avais l'impression que lui venait. Mais ça, c'est mon expérience. Là, on parle de théologie, d'accord ? Et jamais l'expérience n'est supérieure à la vérité et à la doctrine, ok ? C'est un ordre logique, mais il ne faut pas non plus se casser la tête là-dessus. Là, je le cite juste pour mon objectif et de vous situer la persévérance des saints. On continue avec ceci. On va passer à l'analyse de 2-3 textes. Vous allez voir, c'est finalement dans l'Épître aux Hébreux. Daniel me le rappelait où il me disait que dans son expérience, il a vu énormément de chrétiens, de jeunes chrétiens, butés notamment sur Hébreux 6 et Hébreux 10. Et c'est vrai que moi-même, ce sont des textes qui m'ont beaucoup frappé parce qu'il y a dans certaines pensées théologiques, notamment le méthodisme, l'arminianisme, le pélagianisme d'une manière générale, voilà, je ne vais pas vous les décliner, mais qui en tout cas, affirme que l'on peut perdre son salut sur la base de ces textes. Mais vous allez voir, au final, c'est vraiment pas compliqué. Ce n'est pas du tout des textes, je trouve, qui sont des casse-têtes d'un point de vue de l'interprétation. On a des textes beaucoup plus compliqués que ceux-là. Quand on interprète ces textes à la lumière des autres textes didactiques, c'est-à-dire des enseignements, pas simplement des récits qui parlent d'expérience de conversion ou de vie, de parcours de foi de certaines personnes dans la Bible, ce sont des textes qui nous, finalement, sont parfaitement clairs. Ça me permet d'apporter une clarification. Lorsque l'on fait une doctrine, la doctrine, vous savez ce que c'est la doctrine ? Une doctrine ? Parce que je prends ça pour un acquis, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'une doctrine ?
C'est un enseignement.
Un enseignement, exact, oui, ça c'est... Oui, oui. Un positionnement théologique. Un positionnement théologique, un enseignement et un positionnement théologique, on est d'accord ?
Qui se base sur de multiples textes.
Qui se base sur de multiples textes et qui en fait en est... Pardon ?
Qui a un fondement solide.
Qui a un fondement solide, oui, oui. Parce qu'il est... fondé sur de multiples textes, mais qui en est la synthèse. Une doctrine, c'est une synthèse de l'ensemble des textes que nous avons. Et lorsque nous affirmons quelque chose, nous devons toujours nous assurer que ce que nous affirmons, ce que nous démontrons, repose sur des textes et en fait en propose une synthèse parfaite. Parce que notre présupposé à nous, chrétiens évangéliques, c'est que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle fait autorité et qu'elle ne se contredit pas. Et donc, à ce moment-là, quand nous avons un texte qui nous semble un petit peu biscornu, Nous devons prendre du recul, regarder ce que le reste de la Bible nous enseigne sur le même sujet, et si notre conclusion à partir d'un texte, d'un point de vue microscopique, nous semble aller dans un endroit erroné, en interprétant la Bible par rapport à l'ensemble des autres textes, ça nous permettra de prendre du recul et d'interpréter ce texte à partir des autres textes de la parole. D'accord ? Donc une doctrine est une synthèse des Écritures sur un sujet, tout simplement. Dieu, la Trinité, etc., etc. Le mot Trinité, par exemple, vous ne le trouverez pas. Mais c'est une doctrine. C'est la synthèse de tous les textes qui nous parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On les compare et puis on voit qu'en fait, les trois sont les mêmes, les trois sont un, les trois ne sont différents, etc., etc. Bon, on n'arrive toujours pas à l'expliquer, la Trinité. Mais en tout cas, on reçoit cette doctrine comme telle. Alors, un petit rappel. L'Épître aux Hébreux est une lettre d'encouragement. Cette Église est en danger par rapport à la foi. Certains commencent à filer du mauvais coton, trouvent l'auteur, et il veut donc les encourager. L'encouragement biblique est parfois, et même souvent, différent de l'encouragement peut-être que l'on a dans nos milieux évangéliques, qui se veut très lisse, qui ne va pas oser rappeler les vérités bibliques qui dérangent ou qui ne va pas donner de sérieux avertissements. L'encouragement biblique passe par la consolation, par l'écoute, par la patience, mais aussi par de sévères avertissements. Et tout est réuni dans cet épître. Des avertissements très sévères et en même temps de puissants encouragements pour les lecteurs. Alors, allons tout de suite à Hébreux 3, 14. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » L'auteur cite là au verset 15 le psaume 95 et l'utilise d'un point de vue moral. Le psaume 95 est écrit par le roi David, qui parle des événements de la révolte pendant le temps de pèlerinage du peuple dans le désert. Les Juifs sortis d'Égypte, cette génération-là n'est pas rentrée en terre promise. Les Juifs étaient sauvés d'Égypte, mais n'étaient pas encore dans le pays promis. Ils étaient sauvés de quelque chose, mais pas de tout encore. L'auteur utilise le verset pour leur dire « Vous qui avez bien commencé, faites attention de ne pas vous écarter comme eux, comme ont fait nos pères. » Mais ce qui est intéressant, c'est que David écrit alors qu'il est dans la terre promise. Et il leur dit « Vous, aujourd'hui, il actualise les événements qui se sont passés. David parle de ce passage, donc alors qu'il est en terre promise. Pour les Juifs, entrer dans le pays promis ne pouvait pas signifier entrer dans le repos complet. C'était Hébreux chapitre 4 et suivant. Autrement, il n'y aurait pas eu de place pour le psaume 95. David n'aurait pas eu besoin d'écrire ce psaume s'ils étaient rentrés totalement dans le repos. Et donc l'auteur utilise, en citant David, pour dire « Il faut persévérer. Ne faites pas comme nos pères qui, eux, se sont écartés. La vraie foi est celle qui persévère, qui retient jusqu'à la fin. » D'accord ? Il faut persévérer. La persévérance est la preuve que nous avons été rendus participants de Christ, que nous avons été sauvés. C'est un signe d'authenticité de notre foi. Wayne Grudem dit « Ces textes sont toujours là dans l'Épître aux Hébreux pour montrer que ceux qui sont tentés de se détourner de la foi ou qui l'ont déjà fait, que s'ils agissent ainsi, c'est probablement qu'ils n'ont jamais été sauvés. » Je poursuis. L'auteur n'est pas dupe. Il sait que cette Église existe depuis plusieurs générations et que dans une église qui existe depuis plusieurs générations, certains peuvent imiter la foi. Il y en a qui sont sauvés, d'autres peut-être qui font comme ceux qui sont sauvés. Et dans une église comme la nôtre, on le sait très bien. Combien de jeunes, combien d'adultes témoignent que pendant des années, ils ont cru, ils suivaient comme les autres, ils pensaient qu'être chrétien, c'est aller à l'église, malgré tout ce qu'on avait pu leur dire, et puis un jour, le Seigneur vraiment leur a montré qu'ils n'étaient pas dans la vraie foi. Et ils ont eu à se repentir. Ok ? On continue. Chapitre 5, versets 11 à 14. Alors que l'auteur, nous l'avions vu mercredi, avait commencé un développement sur Christ, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il s'interrompt avant de reprendre ce développement-là. Donc c'est intéressant. En plein milieu d'un raisonnement, il fait une coupure. Et il dit ceci. « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. » Pourquoi est-ce que c'est difficile pour eux à comprendre ? « Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Autrement dit, il y a quelque temps de cela, vous auriez compris rapidement, mais vous devenez lent. Vous êtes en effet, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Sous-entendu, vous ne discernez plus. Alors, le problème là, mentionné par l'auteur, est celui de la lenteur, de la stagnation dans la foi de la communauté. Ils n'écoutent plus avec le même empressement qu'autrefois l'enseignement de la parole. Et ça, c'est un témoin, un lumineux rouge qui clignote. Quand le peuple de Dieu ne veut plus écouter ce que Dieu a à lui enseigner, qu'il devient lent à comprendre les choses élémentaires, c'est qu'il y a peut-être pas simplement des difficultés théologiques, mais de la mauvaise foi, pour le jeu de mots. Certains auraient-ils goûté que c'est bon, et puis finalement que cela ne se traduise pas par un réel engagement, une réelle croissance spirituelle, qu'il faille toujours rester obtilé. C'est ce que l'auteur, en tout cas, laisse sous-entendre. On voit, en tout cas, d'une manière vraiment claire, que l'auteur pour l'auteur, s'il n'y a pas de croissance spirituelle, c'est qu'il y a un problème spirituel. Que tes progrès soient évidents aux yeux de tous, dit Paul à Timothée. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur, c'est valable pour tous. Alors maintenant, prenons la suite et je vais lire juste à partir du verset 4. Chapitre 6, verset 4. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient par leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe, souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre au feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous entendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Je m'arrête là, je poursuivrai après. L'auteur commence avec cette affirmation vraiment tranchée. Il est impossible que ces personnes-là, beaucoup de théologiens émettent l'hypothèse qu'il s'agit d'un cas abstrait, d'une hypothèse. Je ne suis pas d'accord, moi, avec cette interprétation-là, parce que beaucoup d'autres textes des apôtres nous montrent qu'il y avait des personnes dans l'Église qui ne persévéraient pas dans la foi. Maintenant, il faut comprendre si ces personnes qui fréquentaient l'Église étaient des chrétiens. Mais ce n'est pas un cas abstrait. Les autres textes, vous allez le voir, nous en parlent. Mais aussi, l'expérience nous en parle. Beaucoup de personnes ont vu à leur côté des chrétiens, des personnes soi-disant chrétiennes en tout cas, qui font profession de foi publique, qui se font baptiser, qui fréquentent l'Église, qui portent même du fruit, qui finalement abandonnent et rejettent l'Évangile, qui même deviennent des ennemis de l'Évangile et de l'Église. Comment comprendre ? C'est des cas qui arrivent, ce n'est pas une hypothèse. C'est ce dont parle l'auteur là, c'est de l'apostasie. Et l'apostasie est bien réelle. Qu'ont fait ces personnes ? Elles ont goûté aux dons célestes, à la parole et aux puissances du siècle à venir. Celui qui goûte connaît le goût. Ceux qui ont des enfants savent que quand les enfants n'ont pas envie, ils disent « j'aime pas ». Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit « goûte ». Est-ce que pour autant, quand on a goûté, on s'est nourri de cette chose-là ? Le même mot est utilisé, geomai, pour Christ quand il est sur la croix et qu'on lui apporte le vin mélangé de vinaigre, excusez-moi. C'est du vinaigre mélangé avec autre chose. Vous dites ? Du miel ? D'accord, oui. Bref, cette concoction qui avait pour but d'apaiser les souffrances, un petit peu utilisée comme analgésique, quoi. Bon, ça vaut ce que ça vaut quand on est cloué sur une croix, mais Christ y a goûté, puis il n'en a pas voulu. C'est pas parce qu'il a goûté qu'il en a profité. D'accord ? C'est le même mot qui est utilisé ici, Matthieu 27, 34. Donc, ce texte n'affirme pas que ces personnes ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont été participants du Saint-Esprit, c'est-à-dire influencés par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, l'appel efficace, l'appel de l'Évangile nécessaire, ces personnes ont été influencées par l'Évangile, elles l'ont trouvé intéressant, elles l'ont suivi pendant un temps, mais elles n'ont pas été régénérées par l'Esprit. Jamais il n'est utilisé cette expression ailleurs dans l'Ancien Testament. Ces personnes n'ont pas été baptisées par le Saint-Esprit. Oui ?
Dans le verset 6, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical.
Oui, tu vas trop vite. Participant du Saint-Esprit, donc, n'est pas être baptisé du Saint-Esprit, qui est le seul cas où nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Pas simplement que nous avons reçu une influence du Saint-Esprit. Ces personnes sont tombées. Que veut dire ce texte ? Est-ce qu'il veut dire que ces personnes ont péché ? Si c'est le cas, je tombe tous les jours. Je tombe tous les jours. Le mot dans l'hébreu, c'est apostasier, c'est une apostasie, c'est-à-dire un rejet. Ces personnes ont rejeté, ont apostasié. D'accord ? Ce n'est pas une chute dans un péché, ce n'est pas un combat avec le péché. Sinon, l'apôtre Paul ne dirait pas qu'il faut mortifier le péché. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne dit pas qu'il faudrait lutter contre le péché jusqu'au sang. D'accord ? Il ne s'agit pas de chuter dans le péché, mais de l'apostasie, c'est-à-dire rejeter l'Évangile, rejeter Jésus-Christ, après y avoir, pendant un temps, trouvé des intérêts. ça n'a rien à voir avec le péché d'incrédulité. Sinon, vous tous, y compris moi, je me mets dans le lot bien sûr, et le premier, combien de fois avons-nous entendu l'évangile avant d'y répondre? Combien de fois l'avons-nous rejeté? Il s'agit donc du péché du rejet de l'évangile. Ce sont des personnes donc qui ont été mises au contact de la Bible, des personnes qui ont expérimenté aussi la vie de la communauté, et comme Christ le disait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples. Ce sont des personnes qui ont pris part à des bénédictions de Dieu, qui ont été au bénéfice de l'œuvre de Dieu dans leur vie et qui ont compris que Dieu était derrière ce qui leur arrivait. Ils le savent, mais finalement, ils rejettent Christ. Ils n'en veulent plus. Ça valait pour un temps, mais ils n'en voulaient plus, finalement. Versets 7 et 8. L'auteur illustre cela avec donc une imagerie agricole. Donc, ta question, c'était... Alors, oui. Oui. Alors, l'auteur parle de la repentance à salut. D'accord ? La repentance qui mène au salut. La foi, d'accord ? On est justifié par la foi et cette foi implique la repentance. Dans la Bible, il y a deux sortes de repentance. Il y a une repentance qui mène à la mort et une repentance qui mène à la vie. Judas s'est repenti. Saül s'est repenti. Ésaü s'est repenti d'avoir volé les lentilles à son grand frère. Mais ce n'était pas une repentance à propos de leur péché, mais à propos des conséquences de leur péché. Autrement dit, ce qu'ils ne voulaient pas, c'était subir les conséquences de leur péché. Ce n'était pas une tristesse à propos de leur péché. Pierre a renié Christ, mais il s'est repenti. Il y a deux sortes de repentance dans la Bible. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent se repentir, regretter leurs actions, mais là, l'auteur parle d'une repentance qui mène à salut. Ce qu'il veut dire, c'est que l'Église ne peut plus rien faire. Quelqu'un qui a été, si on croit que la Bible est suffisante, quelqu'un qui a été au bénéfice de l'Évangile, qui en plus a dit « oui, moi je veux aller plus loin, je veux qu'on m'enseigne plus, je veux avoir part à la vie de la communauté, je veux toutes ces choses-là », et cette personne abandonne la foi, qu'est-ce que vous pouvez y faire de plus ? Rien. Elle a tout reçu ce que l'Église pouvait lui apporter. Elle s'est endurcie, elle s'est fermée. Et l'auteur dit que c'est impossible que cette personne revienne. Encore une fois, il ne s'agit pas d'incrédulité, il s'agit de rejet de Christ. Il ne s'agit pas de ne pas croire parce qu'on ne comprend pas, il s'agit de rejeter parce que l'on comprend. Oui.
Du coup, ce n'est pas un abandon, c'est un rejet.
C'est un rejet.
Ah, parce que moi, enfin, c'est pas...
C'est un rejet. D'autres textes vont nous aider. Je ne crois pas. L'apostasie est plus large que cela. Pour ma part, je crois que le péché contre le Saint-Esprit était propre au ministère de Christ et au rejet des pharisiens par rapport aux manifestations du ministère de Christ et des miracles qu'ils faisaient, qu'ils attribuaient à Satan. Et Christ a reçu le Saint-Esprit pour son ministère. Et Christ dit, vous péchez contre le Saint-Esprit qui est m'équipe pour le ministère. Je fais mes miracles par la puissance du Saint-Esprit. Vous rejetez cela, vous ne pouvez pas te sauver.
Quand les Hébreux étaient en Égypte, il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu a fermé le cœur du pharaon en faisant qu'il s'en...
D'accord.
Est-ce que Dieu, quelque part aussi, maintenant dans la Nouvelle Alliance, peut fermer quelqu'un qui est dans le rejet? Dieu peut décider de fermer la porte lui-même, c'est une initiative qui vient de Dieu, empêchant cette personne de revenir?
Très bonne question. C'est la question, oui.
Si quelqu'un rejette la foi, Dieu lui dit, bon d'accord,
oui.
Tu vas m'embêter, tu as décidé ça, donc maintenant,
oui.
Et de
fermer les... Alors c'est une très bonne question, et ce qui est, c'est vraiment, c'est long d'y répondre. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir... je n'ai pas le temps. Mais c'est Ésaïe 6, Romain, effectivement. L'application d'Ésaïe 6, comment Christ est l'application d'Ésaïe 6, et Ésaïe 6, où en fait Ésaïe est annoncé pour qu'il n'entende pas et qu'il ne voit pas, et Christ qui enseigne par des paraboles qui sont censées éclairer. Derrière, les gens ne comprennent pas, et les apôtres lui disent « Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ?» Il dit « Parce que j'enseigne, je rends les choses plus claires. Pourquoi ? Pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne voient pas. » Ça, c'est très intéressant. En fait, dans Ésaïe 6, je fais la réponse très courte, dans Ésaïe 6, le peuple est dans l'idolâtrie, il persévère dans l'idolâtrie. Ésaïe est envoyé par Dieu, lui qui s'est repenti, pour aller voir le peuple et pour lui dire « Vous ressemblerez à vos idoles. » Elles ont des oreilles en bois, des yeux en bois, des oreilles en pierre, des yeux en pierre. Elles ne peuvent pas voir, elles ne peuvent pas entendre. Vous persévérez dans l'idolâtrie, le jugement de Dieu, c'est que maintenant vous allez ressembler à vos idoles. On vous parlera, mais vous n'entendrez pas. En ce sens, l'annonce de l'Évangile, le ministère de Christ, est autant l'annonce de la grâce que du jugement. Il n'a pas venu amener l'épée, la paix, mais l'épée. Son message était discriminant. Ceux qui ne veulent pas voir, Christ les aveugle. D'accord ? Ce qui parfois ne colle pas avec notre vision de... Oui, je ne vais jamais avoir le temps de finir. Vas-y, non mais vas-y, pose ta question, c'est peut-être important.
Ok.
Alors, non, pas du tout. Non, je veux surtout pas que l'on croie ça. Mais, alors, ce qu'on va faire, on va passer aux autres textes, d'accord ? Ça vous permettra de mieux comprendre ça. Simplement, juste Hébreux 10. Hébreux 10 est très simple. C'est le plus simple de tous les textes par rapport à cette sécurité du salut. Ok, Hébreux 10. Souvent, on commence à étudier ce texte à partir du verset 26. Probablement que dans vos Bibles, elles sont séparées, la partie 26 est séparée de la partie précédente. C'est une erreur des éditeurs, une grosse erreur, parce que le raisonnement commence avant, ils ont coupé le raisonnement en deux. Donc si on commence à étudier le texte au milieu du raisonnement, on est perdu. Mais vous allez voir, quand on a le raisonnement entier, ça va. Donc, l'auteur, rappelez-vous du contexte de l'Épître, l'auteur vient de développer toute cette question de la perfection du sacrifice de Christ. De la perfection de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. D'accord ? Écoutez bien, ça va vous aider à comprendre. Donc la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Verset 23 du chapitre 10. Retenons ferme la profession de notre espérance dans le salut, dans le cadre de la nouvelle alliance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est-à-dire celui qui scelle cette alliance-là, c'est Dieu lui-même. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. L'inverse, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Je m'arrête ici. Abandonner l'Église, ce n'est pas abandonner l'Église locale, c'est abandonner le peuple de la Nouvelle Alliance. Ce sont deux choses différentes. Ce texte est utilisé, moi je l'ai entendu dans des cours à l'IBG, où des profs disaient que si des personnes ne suivent pas, un professeur disait que si une personne ne suit pas les réunions de l'Église, il faut lui rappeler qu'il ne faut pas qu'elle abandonne l'Église. Ça, c'est utiliser un texte pour un prétexte. D'accord ? On peut encourager quelqu'un à venir à la réunion de l'Église, mais pas manipuler la parole de Dieu pour arriver à ses fins. Ok ? En ce qui quitter l'Assemblée, simplement, on voit le contexte, c'est après avoir reçu la connaissance, hein, si nous péchons volontairement, c'est quoi pécher volontairement ? C'est abandonner. C'est ce qui est dit au précédent. D'accord ? Car, vous voyez, le verset 26 commence avec car. Hein, il y a un lien de causalité. Si vous abandonnez, d'accord ? Vous péchez volontairement. En gros, c'est le péché de vouloir retourner dans le cadre de l'ancienne alliance, vouloir là retourner au judaïsme. Si vous retournez au judaïsme, après avoir reçu la connaissance de la vérité à propos de la nouvelle alliance, il ne reste plus de sacrifice pour vos péchés. Vous vous enlevez de la sacrificature de Christ qui, elle, ôte le péché pour retourner sous la sacrificature des Lévites qui, elle, n'ôte pas le péché. Vous voyez, c'est clair. Si vous allez à l'ancienne alliance, c'est que vous n'avez pas compris à quel point la nouvelle alliance est super. C'est un avertissement très fort. Qu'est-ce qui reste si on retourne sur l'ancienne alliance? L'attente terrible du jugement, l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse, l'ancienne alliance c'est selon la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. Là, il cite la loi. Vous voulez retourner sur la loi? Très bien, allez-y. Vous allez la transgresser, vous allez mourir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt clair. J'élargis maintenant. Simplement, la définition de la persévérance des saints. La persévérance des saints est la preuve et la conséquence de notre salut. Des textes sont utilisés parfois pour parler de preuves et des fois pour parler de conséquences, conséquences normales, conséquences logiques, conséquences naturelles, conséquences d'être une nouvelle créature, vous persévérez, et aussi comme preuve. Une définition à double facette. Premièrement, la première facette, c'est que tous ceux qui sont nés de nouveau sont gardés par la puissance de Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont gardés par Dieu lui-même en la foi en Jésus-Christ. Hébreux 13, 5, je vous cite rapidement les textes. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui y a la foi est sauvé. » D'accord ? Jean 6, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ah, quelle est la volonté de celui qui m'a envoyé ? Comment est-ce qu'il va sceller cette nouvelle alliance ? Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, tous ceux qui croient sont ressuscités. D'accord ? Tous ceux qui ont réellement cru sont ressuscités. Tous ceux qui sont régénérés seront glorifiés. Jean 10, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ah, il faut être une brebis pour croire. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Donc, elles vivront éternellement. Et personne ne les arrachera de ma main. Perdre son salut nécessite forcément que soit Satan, soit ma propre chair, mon propre péché, est plus puissant que la main de Dieu qui me préserve. Ce n'est pas possible. Rien n'est plus fort que Dieu. Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Philippiens 1, 6, je suis persuadé que celui qui commence en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Éphésiens 2, je ne vais pas le citer, c'est trop long. Apocalypse 3, 5, où il est dit que personne ne verra son nom ôté du livre de la vie. Et Romains 8 aussi, où il dit que tous ceux qui ont été élus, appelés, seront tous rendus conformes à l'image de Jésus-Christ. Donc, deuxième raisonnement, deuxième vérité liée à cette doctrine-là, tous ceux qui sont nés de nouveau sont gardés par la puissance de Dieu en la foi en Christ, donc seuls ceux qui persévèrent dans la foi jusqu'à la fin sont sauvés. Conséquence, on est préservé, on continue. Preuve, on a persévéré jusqu'au bout, on était sauvés. Vous comprenez ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vais te répondre. Tu me laisses 2 minutes ? Jean 2, 18. Je vais juste vous lire ce verset. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des autres. Donc, est-ce qu'ils ont abandonné la foi ? Non. Ils nous ont quittés, ils nous ont abandonnés, mais parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. La vie à la lumière de l'Évangile, forcément, les a poussés à un moment donné à se séparer de nous. S'ils avaient été des nôtres, alors ils ne nous auraient pas quittés. Vous voyez, donc il ne parle pas de chrétiens qui auraient abandonné. Il parle de faux chrétiens qui étaient au milieu d'eux et qui, eux, ont abandonné. Chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Celui qui aime Dieu désire obéir à ses commandements. Il ne trouve pas que c'est quelque chose qui est contraire au bon sens, que c'est quelque chose qui ne va lui apporter que des mauvaises, que des conséquences pénibles. Au contraire, il sait que c'est bon pour lui d'obéir aux commandements de Dieu. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Celui qui demeure dans sa parole, hein, celui qui vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc vous êtes affranchi, verset 36, vous serez réellement libre. Donc le disciple de Christ est quelqu'un qui demeure dans ses commandements et qui est libre du péché. Au contraire, celui qui n'est pas en Christ n'est pas libre vis-à-vis du péché. Colossiens chapitre 1. Versets 21, je commence. « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si vous demeurez fidèle à mon évangile, moi, Paul, moi, l'apôtre, moi, celui qui est l'autorité, vous êtes réellement sauvés. Si vous ne demeurez pas dans l'évangile, vous le rejetez, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Encore le même genre d'avertissement. Et Hébreux 3, 14. Donc, ce que nous enseigne en plus de cela la Bible, il y a d'autres textes qui nous aident à être plus clairs, c'est qu'il y a des signes des non-convertis, des non-régénérés, je parle au sens non-nés de nouveau, peuvent produire du fruit. Exemple, la parabole des 4 terrains. Vous savez, le semeur sorti pour semer, et il y a 4 terrains. Sur les 4 terrains, finalement, un seul est la bonne terre. tout de suite, c'est Satan qui enlève la graine. L'autre, c'est quoi? Oui, qui signifie? Les difficultés, les épreuves. Ah ben finalement, suivre Christ, c'est compliqué. Moi, je croyais que ça allait être facile, donc j'abandonne. Donc pendant un temps, j'ai été au bénéfice, elle a poussé, elle a produit du fruit. Pendant un temps, après, elle abandonne parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne terre. Troisième cas, les ronces qui sont les soucis, les séductions du monde présent. Là, c'est les tentations. C'est la personne qui rejette à cause des tentations. Pendant un temps, elle a voulu suivre, puis finalement, en fait, il faut renoncer à l'impureté sexuelle. Mais moi, j'en veux. Je préfère ça à la pureté sexuelle. Et du coup, cette personne rejette l'évangile. D'accord ? Mais par contre, la dernière qui reçoit, elle, parce que jusque-là, on est un peu déprimé, mais elle, par contre, produit du fruit en abondance, plus qu'on pourrait imaginer récolter. Alors que peut-être on n'aurait pas parié sur cette terre-là. Mais finalement, elle produit énormément de fruits. Donc la Bible est claire, la persévérance des saints est l'œuvre extraordinaire de Dieu pour nous préserver au travers des afflictions, des souffrances, des tentations, des hérésies, pour un héritage éternel de plaisir à sa droite. Qui parle des faux enseignants et des faux docteurs ?
Ouais, enfin, c'est le texte qui parle des faux docteurs.
Oui, oui, bah, les faux docteurs, c'est des faux docteurs. C'est des loups qui se sont introduits au milieu de nous. C'est les mêmes que... C'est les judaïsants de 2 Corinthiens. C'est la même chose. C'est la même chose, je crois. Ils sont là pour détourner le peuple de la vérité de l'Évangile. Donc si celui qui est régénéré préserve l'évangile, celui qui enseigne un faux évangile, j'en déduis qu'il n'est pas régénéré. D'accord ? Donc, tous les élus sont prédestinés, sont appelés, tous sont justifiés et tous seront préservés. Ces textes ne parlent pas de ne pas pécher. Tout chrétien peut tomber dans de longues périodes de tumulte, de longues périodes d'épreuves, de péchés qui sont attachés, qui sont là comme du chien dent et qui repoussent tout le temps de diverses manières, mais qui reviennent toujours. Pour chacun d'entre nous, nous avons en ce moment même à l'esprit des péchés qui sont là, qui reviennent, toujours de même nature. On se dit, pétard, c'est toujours pas fini. Mais on persévère, parce qu'on n'aime pas ce péché-là. On ne veut pas le tolérer dans notre vie. Et à chaque fois, on demande pardon. Et à chaque fois, on est restauré. Parce que Christ est mort pour ce péché-là. Et on continue. On avait commencé avec du retard. On finit avec un peu de retard aussi. Je n'ai pas le temps de développer la suite. Mais juste 2 choses. Ça va être court, Daniel. Ça nous pousse à nous rassurer, parce que notre salut est entre les mains de Christ, d'accord ? D'abord, c'est pour nous rassurer, et la deuxième chose, c'est pour nous pousser à nous examiner. Est-ce que j'ai confiance en Christ aujourd'hui pour mon salut ? Est-ce que dans ma vie, il y a des preuves de la régénération, du fruit du Saint-Esprit, le témoignage de l'Esprit ? Ou est-ce que je préfère le péché à Christ ? Est-ce que je suis prompt à pardonner ? Est-ce qu'il y a une croissance dans ma vie ? Souvent, on est trop simple avec la théologie de la conversion. On parle d'une prière qui a été faite, d'une main qui a été levée, d'une confession qui a été faite à quelqu'un quelque part. Et on dit, bah, cette personne-là est chrétienne. Du coup, quand on l'abandonne, on se dit, mais attends, elle était chrétienne ou pas ? Il nous faut avoir une bonne théologie de ce qu'est la conversion. Et ça ne veut pas dire vivre dans l'église à regarder tout le monde à droite à gauche pour voir si lui, il est vraiment là ou pas. Chacun rend des comptes pour sa vie devant Dieu. Mais persévérer dans la communion des frères et sœurs, persévérer dans la communion avec Dieu, ce sont les deux choses essentielles, les deux marques. Et cette assurance, encore une fois, que nous sommes préservés par Christ lui-même dans la Nouvelle Alliance. Il est notre sacrificateur, celui qui a porté nos péchés. Donc aucun péché peut nous ôter la vie éternelle.